Ça va, vous allez bien? Vous voyez, c'est le dernier jour, du coup je prends mes aises, je mets ma chaise, je m'installe, tout va bien. On est très heureux avec mon épouse qui est là-bas, et puis mon petit bonhomme qui a 3 mois, qui s'appelle Evan, donc d'être avec vous pendant tout ce week-end. On connaît votre communauté de loin depuis longtemps, et puis c'est une des premières fois où on vous rend visite en vrai. Et c'était vraiment 3 jours vraiment, vraiment super, on a beaucoup apprécié ce temps passé. Alors, pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier, hein, pour résumer un petit peu, on a travaillé sur notre intimité personnelle avec Dieu. Et on a travaillé sur notre identité, sur le fait que Dieu nous a voulu chacun. C'est ce qu'on a, la parole qui a été libérée par Luc ce matin. C'est qu'on a été, avant la fondation du monde, on a été choisi, on a été créé par Dieu, on a été voulu par Dieu, on a été destiné par avance à devenir ses enfants, ses fils et ses filles, qui voulaient adopter par Jésus-Christ. Et puis hier après-midi, on a travaillé sur comment est-ce qu'on est en relation avec Dieu, un Dieu qui est trinitaire, c'est-à-dire qui est 3 personnes en une seule. Et on a parlé du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de comment ces 3 personnes d'une seule personne qui est Dieu, comment on pouvait être en relation avec ces 3 personnes, quels étaient leurs rôles et comment est-ce que ça a influé aussi sur notre vie à nous. Et puis le soir, on est revenu sur le concept de l'alliance. Parce que pour entrer dans cette intimité avec Dieu, pour vivre cette intimité avec Dieu, il faut rentrer dans l'alliance que Dieu a préparée pour nous. Et c'est quelque chose qui est pas un contrat, c'est pas juste un agrément pour que les deux parties s'en sortent le mieux, mais c'est vraiment une alliance que Dieu a posée, dans laquelle on s'inscrit, et qui fait qu'on est au bénéfice de tout ce qui a été accompli par Dieu en Jésus aujourd'hui. Et on a pris le temps de renouveler cette alliance avec lui. Ce matin, une des pistes, une des choses en fait qui m'avait été demandée pour pendant ce week-end, c'était d'essayer de vous parler de qu'est-ce que je pense que Dieu est en train de faire en France, en francophonie, en ce moment. Alors, du coup, j'ai réfléchi un petit peu, et puis je vais essayer de vous faire un petit tableau. Alors, je pense pas que ce sera très long, rassurez-vous. On va manger bientôt, mais j'ai été frappé ce matin en réfléchissant qu'est-ce que Dieu est en train de faire en ce moment dans notre pays par le parallèle qu'il y avait avec la journée d'hier, avec en particulier cette dimension trinitaire. Et parler un petit peu de ça, je vais revenir sur quelque chose qu'on a vécu il y a quelques semaines avec plusieurs personnes impliquées dans le mouvement prophétique en France. On a fortement senti l'année dernière, en novembre, on s'était à Paris, on était en association avec France en Feu, dans l'association dont on fait partie, qui s'occupe un petit peu de coordonner tout ce qui est maison de prière, hôtel de louange, école de formation prophétique en France. Et Paris Tout est Possible, donc, qui a été plutôt une association tournée vers la guérison et l'unité des chrétiens, et qui a été fondée par Carlos Payan il y a une dizaine d'années. Et donc on avait fait une conférence commune, on sentait qu'il y avait une convergence entre les différents mouvements prophétiques en France et qu'il fallait qu'on vive quelque chose de spécifique par rapport à ce que Dieu était en train de faire dans notre pays à ce moment précis. Donc c'était en novembre l'année dernière. Et on a eu des temps très forts, il y en a plusieurs d'entre vous qui étaient présents. Et le dernier soir en particulier, le Seigneur nous a parlé de plusieurs puits de réveil qui voulaient réouvrir dans notre pays. Vous savez qu'il y a des semences dans ce pays de ce que Dieu a fait dans les générations passées. Et il y a des choses qui ont été ouvertes et qui ont été comme refermées, comme à l'époque d'Isaac, vous savez, où Isaac a cherché un point d'eau pendant plusieurs générations. Il y avait eu ces points d'eau qui avaient été ouverts par son père Abraham. Et puis du coup, Isaac revient sur les terres qu'Abraham avait visitées et il va essayer de retrouver ces points d'eau. Et puis il va y avoir toute une histoire avec ça, mais il va réouvrir les puits qui avaient été bouchés, les puits que son père avait creusés. Et on avait ce sentiment que c'est ce que Dieu voulait faire aussi. On prophétise depuis des années, on dit qu'il y a un nouveau mouvement de Dieu, un nouveau réveil spirituel qui vient aussi pour la France, qui vient pour la francophonie. Et on sentait que Dieu voulait prendre ces différentes onctions, ces différents moments où il a agi dans notre histoire, et à nouveau en fait les visiter, à nouveau les mettre à la lumière, mais en allant jusqu'au bout de l'intention qui était la sienne au départ. Et du coup, on s'est rendu dans la région de Mâcon et on a visité plusieurs lieux qui étaient des lieux de réveil spirituel au fur et à mesure des derniers siècles. Et je vais faire un petit stop sur 3 lieux qu'on a visités et qui nous ont marqués par rapport à ce que Dieu a envie de faire aujourd'hui en France. Alors notre premier stop, ça a été dans l'abbaye de Cluny. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc là, on remonte à plusieurs siècles en arrière. L'abbaye de Cluny, c'est un ordre monastique qui a été mis en place et qui a commencé à grandir, à fleurir, à porter du fruit. Et au départ, il y avait une seule abbaye, et c'était une abbaye donc, où les personnes qui se consacraient à servir Dieu dans cette abbaye avaient tout un système de service de la présence de Dieu où ils priaient, ils chantaient les psaumes toutes les semaines, en fait, ils chantaient le psautier en boucle. Ils avaient des créneaux horaires en fait, où ils se relayaient les uns les autres et ils passaient du temps dans la prière. Et pour eux, c'est ce qu'ils appelaient le service pour Dieu, le travail pour Dieu. C'était ça, en fait, leur mission. C'était de se tenir devant Dieu, de prier et de chanter. Et finalement, c'était tellement puissant en fait ce qu'ils vivaient que les différents nobles et les différents potentats qu'il y avait autour donnaient beaucoup d'argent à cette abbaye en essayant de dire « priez pour nous ». Parce qu'on voit que ça marche, donc on vous donne de l'argent et puis s'il vous plaît, pensez à nous dans vos prières. Et finalement, ça a été le piège de cette abbaye à la fin, parce qu'elle est devenue tellement prospère que bah, finalement, il y a un côté orgueilleux et mégalomane qui s'est installé. Et là, c'est comme si Dieu a repris en fait ce qui avait été semé. Et du coup, ben, cet ordre qui avait duré quand même plusieurs siècles s'est doucement arrêté et a perdu du rayonnement qu'il avait. Ce qui était intéressant aussi, c'est que c'était une abbaye et petit à petit, le modèle qu'ils ont construit là-bas de service de la présence de Dieu a été répliqué dans toute l'Europe. Et du coup, cette abbaye est devenue un lieu de mission où ils ont envoyé des gens dans toute l'Europe pour reproduire ce modèle de service de la présence de Dieu. Donc vous retrouvez des abbayes sur le modèle clunisien, il y en a à Paris par exemple, si vous allez à la station de métro Saint-Michel, vous voyez que ça s'appelle Cluny en fait, juste à côté. Et puis vous en retrouvez un peu partout dans l'Europe, il y a vraiment cette dimension où ce service de la présence de Dieu a entraîné en fait un flot missionnaire ensuite dans toute l'Europe. Ce qui était intéressant, donc on a visité cette abbaye, puis ensuite on a pris un temps de prière, et cette abbaye était très tournée vers la royauté de Jésus, vers l'agneau qui est sur le trône, on l'a chanté ce matin. Et en fait, ils avaient vraiment cette contemplation de Jésus, c'était la base de leur vie chaque jour, donc ils faisaient aussi des travaux menus et variés, mais à chaque fois, ils étaient dans cette contemplation de la personne de Jésus. L'agneau est sur le trône, c'était ça en fait qui était important pour eux, et donc leur regard était fixé sur Jésus. De quoi ça nous parle par rapport à ce que Dieu est en train de faire en France aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, je sais que vous avez une maison de prière aussi ici. Mais Dieu est en train de lever en fait cette vision des maisons de prière dans notre pays depuis 4-5 ans maintenant. Au départ, il n'y avait qu'une seule maison de prière, une deuxième, une troisième. Et puis finalement, aujourd'hui, on est entre 25 et 30 maisons de prière un peu partout en France. Un peu plus largement en francophonie, il y en a aussi en Belgique, en Suisse. Et Dieu est en train de lever cette vision d'un lieu qui est centré sur la présence de Dieu et où on vient pas pour se servir soi-même, pas pour combler ses petits besoins égoïstes, mais on vient se mettre au service de Dieu. On vient pour Dieu, on vient pour servir les intérêts du cœur de Dieu. Et finalement, bah, c'est une vision qui n'est pas juste pour un ministère spécifique qu'on appellerait maison de prière, mais c'est la vision simplement de l'Église, le corps de Christ. L'Église, c'est le lieu où tous les frères et sœurs se rassemblent autour de la personne de Jésus, autour de la présence de Jésus, et on vient louer, adorer le Christ, on vient contempler Jésus dans sa beauté. Et je crois qu'il y a vraiment un souffle de l'Esprit qui nous ramène à ça, qui nous ramène à la beauté de Jésus. Hier soir, on a eu tout un temps où on est resté juste sur Christ et on a loué et adoré Jésus. Et je sens en fait l'impulsion de l'Esprit dans cette saison dans laquelle on entre pour revenir à la simplicité de la contemplation de Jésus. Revenir à notre premier amour, on en a parlé hier. Revenir à la simplicité de juste l'émerveillement en fait devant la beauté de Christ. Et on avait un temps de veille dans notre maison de prière à Paris il y a quelques semaines et le Seigneur m'a parlé pendant ce temps. On a eu tout un temps, on a contemplé Jésus, on a contemplé la beauté de Jésus. On a juste fait ça. Il n'y avait rien d'autre. On n'a pas prié pour le réveil, on n'a pas béni la France. On était juste sur Christ, Jésus. Et en fait, il n'y a rien au-delà de Jésus. Il n'y a pas besoin d'avoir Jésus plus quelque chose d'autre, ou Jésus plus le réveil, ou Jésus plus le royaume de Dieu dans la société, ou Jésus plus l'éducation chrétienne. Il n'y a même pas besoin d'avoir Jésus plus la louange. Jésus est suffisant. Il est le chemin, il est la vérité et la vie, et il faut qu'on se laisse dans cette saison
saisir à nouveau le cœur et les entrailles pour qu'il reste juste Jésus. C'est tout ce qu'on a. Hein, Pierre disait, mais j'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Tiens, sois guéri au nom de Jésus. Il faut qu'on retrouve en fait cet émerveillement devant la personne de Jésus. C'est ça aussi qui va nous tenir et qui va nous empêcher d'être séduits et d'être captivés par l'esprit de cet âge, par l'esprit de ce monde. C'est d'être concentré tellement sur la beauté de Christ qu'il n'y a rien d'autre qui pourra nous entraîner en dehors de ce qu'il a pour nous et de ce vers quoi il nous attire. On a proclamé ce matin dans Apocalypse 5, on voit hein, tous les anges, les vieillards, au verset 11, où l'apôtre Jean voit et il entend la voix d'anges qui sont rassemblés en grand nombre autour du trône de Dieu, des êtres vivants, des représentants du peuple de Dieu. Et il dit, mais ils étaient des milliers de milliers, des millions de millions. Et il disait d'une voix forte, il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur et la gloire et la louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, les entendit proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute éternité. Les êtres vivants, les anges, les vieillards, toute la dynamique céleste passe l'éternité concentrée sur une seule chose, la personne de Jésus qui est sur le trône, sur cette vision du lion et de l'agneau. Et ils sont centrés sur ça, et c'est la seule chose qu'ils font. Répétez Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Qu'est-ce qu'on va faire pendant l'éternité ? Ben, on va faire ça, on va contempler Jésus et on va le louer et l'adorer. Et ça va sûrement occuper la majeure partie de notre temps. Et c'est quelque chose qu'on doit préparer et commencer ici. Et donc je pense qu'on est dans une saison où on va revenir à cette beauté, à cet émerveillement devant la personne de Jésus. La beauté du Christ roi. Ce sera aussi cette dimension de cette abbaye à Cluny. C'est parlant que finalement, à un moment, ils se sont détournés de cette beauté de Jésus pour se concentrer sur la leur propre et sur leur propre prospérité, leur propre faveur, comment ils étaient, comment les puissants voulaient avoir leur approbation. Et puis du coup, ça a été leur perte finalement. Et ce mouvement de Dieu s'est arrêté parce qu'ils se sont éloignés en fait de cette seule obsession en fait qui était de contempler Christ et de l'adorer, de le louer jour et nuit. Donc c'est ça que Dieu est en train de faire aujourd'hui, dans notre temps, c'est de lever cette génération de service de la présence de Dieu, lever ces maisons de prière, lever des gens qui sont formés et qui savent qu'est-ce qu'on fait quand on est dans la présence de Dieu. Moi, je voyage beaucoup, et puis je voyage, pas ici, hein, bien sûr, mais je voyage dans beaucoup de communautés aussi, et puis j'en discutais avec Vito hier, je disais, mais je suis effaré de voir comment, en fait, la plupart des églises dans notre pays ne savent pas gérer la présence de Dieu, ils ne savent pas quoi faire avec. Et quand Dieu agit dans leur réunion, dans leur culte, en fait, ils sont un peu perdus, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'on fait quand on est en présence d'un Dieu saint. Ils ne savent pas comment on est censé réagir, se comporter, comment on est censé le louer et l'adorer. Et ils peuvent parler très longtemps d'être conduits par l'Esprit, mais finalement, ils ne savent pas comment le faire. Ils ont peut-être le désir dans le cœur, mais ils ne savent pas encore comment le réaliser. Et je crois que c'est quelque chose que Dieu veut remettre au centre de son Église, dire mais l'Église, ce n'est pas un programme, ce n'est pas une multitude d'activités, mais c'est un organisme qui est centré sur la présence de Dieu. Et tout le reste ensuite trouve sa place autour de cette présence de Dieu qui est là, qui est honorée, qui est célébrée, et avec lequel le corps de Christ apprend à fonctionner. C'était notre première étape, et puis ensuite on s'est rendu juste à côté, dans la communauté de Thésée. Et du coup on a pris un temps là-bas, on a participé à un des offices, et puis on s'est mis un petit peu dans la nature à côté, on a pris un temps de prière. Et quand on prend du temps pour prier pour ce qui s'est passé avant, hein, l'idée c'est pas de faire la liste de toutes les choses qui vont pas. Je pense que pour les trois lieux que je vais citer, bien sûr il y a plein de choses qui allaient de travers. Hein. Je dis pas que c'était des exemples parfaits, de choses parfaites qu'il faut reproduire. Mais ce qu'on apprend à faire, c'est à discerner l'intention qui était derrière, et ce que Dieu avait envie de faire au travers de ça, et comment aujourd'hui, en fait, on peut entrer à nouveau dans le désir de Dieu et le réaliser pleinement pour notre temps. Donc, Thésée, c'est une communauté qui a été fondée, c'est une des seules communautés monastiques d'origine protestante. en francophonie. Et c'est une communauté donc, qui a été fondée il y a un peu plus de 70-80 ans, je crois, juste pendant la guerre. Et donc c'était un jeune pasteur en fait, qui a eu à cœur en fait, d'ouvrir un lieu qui soit vraiment dédié à la réconciliation et puis à la dimension œcuménique, c'est-à-dire à la rencontre en fait, de toutes les différentes sensibilités chrétiennes autour du Christ, on va dire. Et donc ils ont quelque chose qui est très fondé aussi sur la dimension de la louange et du chant. Ils ont plein de petits chants simples qu'on retrouve dans certaines familles d'église aussi. Des chants en fait qui chantent tous ensemble. Donc, comme c'est des chants très simples, c'est facile de les apprendre. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme en musicologie. Et donc c'est facile de chanter à Jésus. Eux aussi, ils ont une dimension de contemplation de la personne de Christ, de la lumière de Christ. Ils ont quelque chose de très fort par rapport à la transfiguration. L'épisode de la transfiguration, pour eux, c'est quelque chose de vraiment important. Et donc c'est un endroit où, peu importe que vous soyez protestant ou catholique ou évangélique ou charismatique ou non charismatique ou orthodoxe, vous êtes bienvenus si vous voulez vous rassembler autour de Jésus pour le louer et pour prier. Alors il y a aussi des choses qui ne sont pas forcément bonnes, hein, mais c'est un signe assez fort qui me rappelle en fait cette prière de Jésus dans Jean au chapitre 17 et au verset 21 où Jésus prie et il dit « mais c'est qu'ils soient un comme toi, le Père, et moi, le Fils, nous sommes un. » Et c'est à cet amour les uns pour les autres que le monde croira que je suis vraiment fils de Dieu et qui sera sauvé. Et je disais hier, je partageais ça, je disais peut-être qu'on a mal compris la stratégie d'évangélisation de Jésus. On fait des grandes campagnes, on essaie de remplir des stades ou des endroits en essayant de faire entrer le maximum de non-chrétiens dedans pour leur annoncer Christ. Et puis c'est pas mauvais, hein, le Seigneur il utilise ça, il n'y a pas de souci. Mais la stratégie de Jésus, elle est beaucoup plus simple, finalement, et elle est beaucoup plus concrète et quotidienne. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde verra et qui croira. Et puis malheureusement, dans l'histoire de l'Église, on a plutôt fait le contraire de ça. Et donc le frère Roger, là, qui a ouvert la communauté à Thésée, il est parti de ce constat de dire « mais c'est justement les gens qui sont censés représenter l'amour de Christ qui se déchirent le plus entre eux. » Et donc, on va créer un endroit qui sera une sorte de signe de réconciliation, un signe où on essaie de vivre cette unité de l'Église, imparfaitement bien sûr, mais où on essaie de vivre cette dimension-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? Moi je voyage encore une fois beaucoup, dans beaucoup de familles chrétiennes. Le Seigneur a élargi mon cœur. Moi j'étais un bon protestant, bien classique, et donc fondamentalement anti-catholique et anti tous les gens qui ne pensent pas comme moi. Et puis le Seigneur m'a pris par surprise et puis il m'a élargi le cœur, il m'a donné des amis dans beaucoup de familles chrétiennes différentes. Et avant que j'aie eu le temps de m'en apercevoir, quand on est ami avec quelqu'un, c'est plus difficile de lui jeter des cailloux. Et du coup j'étais obligé finalement de découvrir l'amour que Dieu a pour son Église en général et pas juste pour certaines catégories plus particulières. Et le privilège que j'ai eu, c'est de voir en fait d'avoir un aperçu de cette image globale de l'Église de Jésus dans toute sa diversité, dans toutes ses familles. Mais j'ai vu aussi combien c'était difficile pour ces différentes familles chrétiennes de collaborer ensemble, de se rassembler autour de ce qu'elles ont en commun, c'est-à-dire la personne de Jésus. Et ça fait maintenant bien 10 ans en fait que je voyage dans cet univers-là et que je sais les faiblesses et les difficultés que ça entraîne. Je sais les rancœurs, je sais les blessures qui sont tenaces et qui empêchent cette unité. Mais il y a vraiment quelque chose où plus la fin des temps approche et plus ce signe de l'unité en fait va grandir. Et c'est la prière de Christ. Et la prière de Christ, elle arrive toujours, elle est toujours exaucée. Le Père exauce toujours les prières de Jésus. Et donc cette prière de l'unité, elle porte quelque chose qui nous amène vers la fin des temps, vers le moment où on sera tous réunis autour du trône de Jésus et où du coup on n'aura plus besoin de présenter notre étiquette et notre CV chrétien et religieux. On sera juste rassemblés autour de la personne de Christ. Alors, aujourd'hui, je sens ça, ces derniers mois, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas possibles il y a encore 2-3 ans dans ce domaine de l'unité qui sont en train de vraiment changer. Il y a aussi une dynamique qui est différente, c'est-à-dire qu'au lieu juste de se rencontrer en se disant « toi t'es ceci, toi t'es réformé, toi t'es luthérien, toi t'es évangélique, toi t'es ceci, on croit ci, on croit ça, ça on n'est pas d'accord, ça on est d'accord », sans juste rentrer en fait dans bah, voilà qui on est, voilà, voilà ma carte, voilà mon étiquette. De plus en plus, en fait, il y a des gens qui laissent tomber en fait les vêtements religieux qu'ils peuvent avoir et juste qui disent voilà, bah, on est juste des personnes qui suivent Christ et donc on a un travail à accomplir dans ce monde ensemble, un travail d'aimer Dieu, d'aimer Christ, de révéler aussi, d'annoncer la bonne nouvelle ensemble. Et puis, peu importe, en fait, finalement, qui est et quelle étiquette il y a dessus, du moment que ça amène vraiment vers Christ. Il y a des formations qui sont en train d'être organisées de plus en plus. Alors, je sais que vous avez travaillé sur la question longuement ici, mais des formations, en fait, pour le corps de Christ qui sont plus limitées à juste une famille chrétienne spécifique. Vous savez, avant, il y avait des instituts de théologie juste que pour les pentecôtistes, ou alors que pour les réformés, ou alors que pour les catholiques. Et là, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire dans tous les aspects, que ce soit pour la théologie, pour le service dans l'Église, pour la mission, pour tous les aspects, la guérison, la délivrance, la prophétie, où de plus en plus, en fait, ben, on efface les barrières, et c'est des propositions de formation pour le corps de Christ. Et il y a quelque chose dans l'unité qui est en train de se construire, qui était impensable il y a encore 2-3 ans. Il y a un mouvement de Dieu. Moi j'observe, du coup j'ai rencontré beaucoup de ministères et de serviteurs de Dieu et j'observe avec délectation comment Dieu est en train d'amener leur cœur à travailler avec ceux qui étaient leurs pires ennemis avant, comment Dieu est en train de changer leur cœur et les amener à cette compréhension de l'église de Christ dans son ensemble. Et ça ne veut pas dire être des bénis oui-oui ou juste « ah bah tout le monde il est beau, il est gentil, on vit tous dans le monde des bisounours », c'est pas ça. Bien sûr, il y a des choses qui ne vont pas chez nos frères et sœurs dans les autres familles chrétiennes, mais en fait, il y a des choses qui ne vont pas chez nous aussi. Et c'est plus facile, je partageais ça avec Vito hier, je disais, c'est plus facile de voir dans d'autres familles chrétiennes ce qui ne va pas, parce que c'est évident, bien sûr, ils sont ceci, ils sont cela, bien sûr, ils sont attirés par l'argent, bien sûr, ils sont idolâtres, bien sûr, ceci et cela. Mais en passant notre temps à chercher ce qui ne va pas dans la vie de nos frères et sœurs, finalement, ça nous évite de regarder ce qui ne va pas chez nous. Et c'est quelque chose qui est salutaire. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Donc, comme je suis toujours à la croisée des univers, des chemins, des cultures, j'essaie d'emmener, par exemple, des bons pentecôtistes bien traditionnels qui ne savaient pas qu'il y avait d'autres églises chrétiennes autour de l'église pentecôtiste. Je les emmène dans une bonne conférence catholique charismatique. Et du coup, là, ils se prennent une grosse claque, déjà parce qu'ils rencontrent des catholiques qui aiment Jésus. Et puis, en plus, ils rencontrent des catholiques qui aiment Jésus et qui ne font pas du tout comme ils ont l'habitude. Alors du coup, ils se sentent remis en question en fait de voir des gens qui aiment Jésus et qui ont l'air d'aimer Jésus plus qu'eux, alors que c'est eux normalement qui sont censés être dépositaires de la vérité, quoi. Donc ça leur met une grosse claque et du coup, ben ça ouvre leur univers, dire oh il y a des choses autour, quoi. Et puis je fais l'inverse aussi, c'est-à-dire j'amène mes amis catholiques, je les emmène dans des trucs très évangéliques, très charismatiques, très fondés sur la parole, et puis du coup ben c'est pareil, ça leur fait oh waouh c'est génial et c'est super. Et j'aime beaucoup en fait faire ça, de casser les barrières en fait qui existent entre nos différents mouvements. Et je crois que là Dieu est en train de mettre l'accent sur ça, et notamment en francophonie, il y a des barrières qui sont en train de tomber, il y a des blessures qui sont en train d'être guéries, il y a des générations qui se terminent et des générations qui commencent aussi. Et la nouvelle génération aussi, elle est peut-être moins à cheval sur « voici notre position doctrinale, donc on ne peut pas travailler avec vous ». Et elle est beaucoup plus sur « il y a le Christ, et puis il y a un monde qui a besoin désespérément que l'Église se lève, que les fils et les filles de Dieu se lèvent, et qui prennent leur place dans le monde, dans la société, pour faire briller la lumière de Christ ». Donc c'est ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de construire cette unité. Alors là, je parlais plutôt d'une unité au niveau dénominationnel. Mais dans cette communauté de Thésée, il y a quelque chose qui est très fort aussi sur l'unité entre les générations. Il y a beaucoup de personnes plus âgées. Moi, j'en ai vu plein, du coup, des personnes, des moines là-bas qui se sont mis à part pour servir cette communauté. Donc il y a pas mal de cheveux blancs. Mais il y a aussi plein de jeunes, certains qui sont moines, d'autres, c'est une communauté qui a vraiment eu à cœur d'accueillir tous les jeunes en recherche, qui cherchaient quelque chose au niveau spirituel. Et donc ils ont accueilli très très largement, et si vous allez là-bas, notamment l'été, vous avez des milliers de jeunes en fait qui viennent et qui passent leur temps là-bas à chanter Jésus, avec des bougies, avec machin, avec des trucs que nous on a peut-être moins l'habitude dans nos milieux. Mais ils viennent pour Christ, ils viennent chercher Jésus, il y a une soif en fait chez eux. Et c'est pas parfait, mais il y avait un désir dans cette communauté de répondre à cette soif d'une génération qui désespérément cherchait Dieu. Et c'est quelque chose qui nous parle aussi aujourd'hui, où il y a vraiment besoin en fait de ce travail entre les générations, des plus anciens, des plus jeunes, qui se mettent en collaboration, des plus jeunes qui ne vont pas essayer de réinventer l'eau chaude à chaque fois, de refaire toutes les erreurs que leurs parents ont fait, mais où on se met ensemble et puis on travaille chacun avec ce qu'on peut apporter pour la cause de Jésus. Il y a une unité aussi, alors ça c'est pas Thésée qui me l'apprend, mais je vois aussi comment Dieu est en train de travailler. On disait hier, on parlait de qui Dieu est, on citait ce verset dans la Genèse qui nous dit que Dieu crée l'homme à son image, et pour que l'homme soit à son image, il le crée homme et femme. Et du coup, le Seigneur est en train de bousculer les barrières, tout ce qui a été construit par rapport au ministère féminin pour peut-être faire taire la femme dans les assemblées, comme Paul disait, et qui nous a coupé finalement de toute une image de qui Dieu est, en gardant que la partie masculine. Ben ça, Dieu est en train de faire bouger les lignes aussi pour ça, et de nous dire, mais je suis un père, et je suis aussi celui qui rassemble comme une poule prend ses petits sous ses ailes. Hein, comme un enfant sevré, ben c'est comme ça que j'étais dans les bras de Dieu, dit le psalmiste. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que cette image du père qui est fort, qui est protecteur, elle est rétablie. Mais cette image aussi, cette sensibilité féminine, cette intuition, tout ce que Dieu a mis aussi dans la femme, qui est une image de lui, ben ça aussi c'est restauré dans l'Église aujourd'hui. Et Paul va dire, mais il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ça c'est fini quoi. Christ est la réconciliation ultime entre tout ce qui était séparé. Et la malédiction qu'on avait vécue à l'époque d'Adam et Ève, cette séparation, cette opposition, cette confrontation, ce combat continu entre les hommes et les femmes, ben Jésus vient en fait et vient apporter un terme à ça pour que l'image de Dieu soit rétablie dans l'Église entièrement, homme et femme à son service. Et puis notre dernière étape de ce voyage, ça nous a amené, donc pour Thésée aussi, ce qui m'a touché, c'est que il y a une vraie recherche de l'Esprit Saint aussi, et le symbole en fait de cette communauté de Thésée, c'est une petite colombe. Et puis ça m'a touché en fait, et vous allez voir pourquoi, puisqu'à Cluny, donc on était très centré sur l'agneau de Dieu, sur Jésus. À Thésée, du coup, il y avait vraiment cette recherche du Saint-Esprit, du souffle divin. Et on a fini notre parcours donc, à Mâcon, où on est plus proche de chez nous, mais vous avez participé aussi à ça il y a plus de 20 ans, 25 ans, dans les années 90, où Dieu a fait un mouvement particulier dans cette communauté à Mâcon, une église évangélique assez normal, et puis où Dieu a souverainement décidé de déverser ce qu'on a appelé la bénédiction du Père. Et puis à l'époque, il y avait aussi beaucoup de choses qui se passaient de l'autre côté de l'Atlantique, à Toronto, où il y avait aussi une communauté là-bas qui vivait cette dimension de l'amour du Père, de la bénédiction du Père, de manière très vive, mais aussi très sauvage et un peu désordonnée. Et du coup, il y avait une vraie reconnexion à quelque chose que l'Église avait perdu depuis des années. Et puis, il y avait aussi beaucoup de controverses autour de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à Mâcon, ils n'ont pas juste été, comme il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, prendre l'avion, aller à Toronto, vivre quelque chose de fort et revenir. En fait, à Mâcon, ça a démarré à Mâcon, en France, chez nous. Et donc, c'était une bénédiction du Père, mais made in France, quoi. Cocorico. Et donc, cette bénédiction du Père, elle a été avec tous les excès et les travers d'un mouvement qui était jeune, assez immature aussi. On a pu prendre un temps à l'église évangélique de Mâcon là-bas, et puis avec plusieurs anciens de cette époque là-bas, de cette époque-là, et qui nous racontaient à la fois les choses merveilleuses qu'ils avaient vécues pendant ce temps de réveil, et puis à la fois finalement comment ce temps les avait détruits en tant que communauté, et puis avait fait exploser en fait leur église à la fin. Et donc c'était à la fois très beau et à la fois très tragique. Et là on avait encore une fois bien un exemple en fait d'un désir de Dieu qui n'était pas arrivé pleinement à son terme. Alors, on a eu du temps, on a prié par rapport à ça, et c'est ce que je partageais vendredi soir en fait. C'est une conviction pour moi que ce que Dieu avait commencé en fait dans cette période à Mâcon, puis un peu partout en France aussi, son désir est vraiment de l'amener à son terme. Et cette bénédiction du Père, On en a gardé surtout les cris d'animaux, les gens qui se roulent par terre et ces choses-là. Mais c'était que la partie visible de quelque chose de beaucoup plus profond que Dieu avait envie de faire et qu'il est en train de rétablir aujourd'hui en francophonie, en France, où cette bénédiction du Père, en fait, elle est en train de devenir l'apanage de l'Église et pas juste une communauté quelque part ou juste les gens les plus charismatiques ou les plus allumés. L'amour du Père, c'est en train de redevenir ce fondement qui va poser notre identité en tant qu'Église, en tant que chrétien pour les années qui viennent. Et donc c'est quelque chose que moi j'ai très fort à cœur depuis plusieurs mois. Les derniers chants, genre comme Abba Père qu'on a chanté ce matin, viennent aussi de ça, de cette conviction que le désir de Dieu, c'est de déverser son amour de Père sur toute une génération aujourd'hui dans notre pays et en francophonie. Et sans se préoccuper juste, pas juste dans une communauté, mais vraiment sur l'Église et sur toute une génération qui a soif et qui a besoin d'être visitée par cet amour de Père. Et l'immaturité et la jeunesse et les erreurs qui ont été faites il y a 25 ans, 25-30 ans, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on peut accueillir cette bénédiction du Père sans que cette bénédiction du Père nous fasse exploser. C'est quelque chose il y a un travail que Dieu a fait en fait ces dernières années où il nous a fait passer de vieille outre à outre neuve. Et aujourd'hui, en fait, l'Église a plus cette capacité d'accueillir cette bénédiction. Et c'est vraiment ma prière de dire, Seigneur, déverse ton amour de Père sur notre pays, mais fais-le de manière à ce qu'on ait la capacité de gérer cet amour et qu'on puisse le maintenir. Que ce ne soit pas juste un feu de paille, mais que ce soit quelque chose qui puisse, comme le carburant dans une fusée, vous savez que ça puisse nous emmener très loin. On a fait plein d'erreurs dans le passé, dans les générations passées. On n'est pas obligé de refaire les mêmes. Et ça a été prophétisé, mais le prochain mouvement de Dieu, le prochain réveil que Dieu veut faire dans nos pays, ce sera aussi quelque chose qui ira prendre dans tous les réveils qui ont précédé. Dans cette glorification de l'agneau de Dieu, du Christ roi au temps de Cluny, dans cette présence de l'Esprit et de cette unité qui revient au niveau de Thésée, et puis cette bénédiction du Père qui a été vécue à Mâcon, on peut la recevoir aujourd'hui, mais plus comme un sujet de controverse, mais comme la fondation sur laquelle notre vie chrétienne est basée. Le mouvement qui s'est produit à Mâcon, on y a été, du coup, dans l'église, il y a toujours ce verset de Malachie qui est inscrit en très grand sur le mur. Moi, ça m'a beaucoup bouleversé, en fait, de voir ce verset. C'est le tout dernier verset de l'Ancien Testament qui dit, dans Malachie, au chapitre 3 au verset 24, ou 4, ça dépend de votre Bible. Il fera revenir, voici je vous envoie Élie le prophète avant le jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Il fera revenir le cœur des pères vers leurs fils et celui des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper le pays et le vouer à la destruction. Et donc cette parole, je ferai revenir le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères. C'est encore une parole qui retentit aujourd'hui, où il y a cette unité entre les générations qui est reconstruite aujourd'hui. On n'a plus besoin de se construire en opposition à la génération qui nous a précédés. On peut bâtir sur les fondations que nos pères et nos mères dans la foi ont posées et s'en servir comme un support pour aller plus loin et pour que nos enfants à leur tour puissent aller plus loin derrière. Et Si ça vous dit, on va se lever et puis on va juste prier pour finir ce temps. La semaine dernière, on était en Bretagne dans une conférence, puis pendant ce temps de louange, alors c'était peut-être pas directement pour les gens qui étaient là-bas, mais j'ai vraiment eu le Saint-Esprit qui m'a saisi et qui m'a vraiment donné cette parole prophétique forte pour l'Église en France. Et j'entendais vraiment l'Esprit qui disait « Maintenant, Église de France, lève-toi dans la maturité ». Tu n'as plus à juste être un enfant dans la foi, tu n'as plus à être ballotté de ça, de là, d'un vent de doctrine à un autre, d'une mode à une autre. C'est le moment en fait où les fils et les filles de Dieu doivent se lever, parce que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce pays attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Ça ne suffit pas juste d'être des petits-enfants de Dieu, il faut qu'on devienne des héritiers avec Christ. La différence entre un fils et un héritier, c'est que l'héritier, il prend à son compte l'héritage que son père lui donne. Il prend à son compte le nom de la maison dont il fait partie. Il prend à son compte toutes les œuvres, tout ce que le père est en train d'essayer de faire, et il le prend pour lui et dit « c'est mon héritage, c'est mon royaume, c'est mon travail, c'est ma maison, c'est ma famille, c'est ça que je représente aujourd'hui. Seigneur, viens lever ces héritiers dans l'Église en France, en francophonie. C'est le moment de la maturité. Église de France, lève-toi maintenant dans la maturité. » Arrête tes faux semblants, arrête de jouer dans le bac à sable. Maintenant, lève-toi et serre la venue du royaume de Dieu dans cette génération, dans ce temps dans lequel tu as été placé. C'est plus le temps des querelles intestines, c'est plus le temps des petits égoïsmes et des petits royaumes autocentrés. C'est le temps du règne de Dieu et du royaume de Dieu qui se lève dans ce pays et qui se lève en francophonie. Alors, Église de France, lève-toi dans la maturité. Fais briller, laisse la face de Jésus briller sur toi. Lève-toi dans sa lumière. Que tu sois visité à nouveau dans cette beauté de Jésus. Que tu sois émerveillé à nouveau par la face de Jésus, par la beauté de l'époux pour lequel tu es préparé. Que tu sois émerveillé par lui, que tes entrailles soient saisies. Que ce premier amour soit réveillé en toi. Que tu sois unifié dans tes différentes sensibilités, dans tes différentes capacités, dans tes différentes familles. Sois unifié, Église de France. Reçois l'unité qui est donnée par l'Esprit Saint, qui est donnée par l'Esprit Saint. Que le monde puisse voir l'amour qu'il y a entre les uns et les autres en toi, et qu'il puisse croire que Jésus est le Messie qui t'a envoyé du Père. Et puis nous nous levons alors que ça fait maintenant 500 ans que la première réforme s'est passée. Seigneur, on annonce cette seconde réforme que tu vas faire dans notre pays et que tu vas faire dans ce monde. Une réforme qui ne va pas juste être un outil de combat, de controverse et de division, mais qui va être cette fois une révélation de l'amour de Dieu pour tous les hommes, une révélation de l'amour du Père qui va enflammer ton Église dans ce pays. Et qui va aplanir les sentiers, aplanir les difficultés, qui va guérir les blessures qui ont été causées dans le passé, mais qui va être comme cette grande vague qui vient, et qui vient nettoyer, qui vient purifier, et qui vient nous amener en communion avec toi. Nous prophétisons cette vague de l'amour du Père. Nous la prophétisons sur toutes les familles chrétiennes représentées dans ce pays. Nous la prophétisons sur les catholiques, sur les protestants, sur les évangéliques, les charismatiques, sur les orthodoxes. Nous prophétisons cet amour du Père qui vient comme un torrent, comme un ouragan, et qui vient visiter son peuple tout à nouveau. Baptise-nous à nouveau, esprit, âme et corps, de ton amour de Père, Seigneur. C'est notre prière. Viens lever, Seigneur, ton Église dans la maturité. La création attend avec un ardent désir. La révélation des fils et des filles du Père. Seigneur, nous nous levons. Nous nous levons comme des fils et des filles, comme des héritiers, pour porter cet héritage, pour porter cette représentation de qui tu es. Que nous soyons ambassadeurs de réconciliation dans ce monde. Que ton Église soit à nouveau une bonne nouvelle pour cette société, pour ce monde. C'est notre prière dans le nom de Jésus. Amen.
Merci, Seigneur.